Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga, une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2026. Nous ne dérogeons pas au programme traditionnel du début d'année et là encore, il y a des valises de manga à lire. Cette année d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, beaucoup qui n'ont pas été annoncées au moment où on enregistre cette émission, beaucoup qui ont été annoncées il y a trop longtemps. Je trouve que cette année, elle est bizarre, ce début d'année. Je trouve même que l'année là qui nous attend, elle est assez inégale, assez compliquée à dessiner, à lire. En fait, à part la Tornado Ichi the Witch, j'ai du mal à voir quelles autres nouveautés vont vraiment nous emporter.
En même temps, le contexte ne facilite pas la lecture et la projection des projets, que ce soit des projets édito ou autres. Je comprends tout à fait ton sentiment, Maxime.
Et toi, Cagnard ?
Partagé aussi, c'est vrai que Ichi the Wheel, du coup, il est annoncé et compagnie, donc on peut se concentrer dessus. Voilà, on sait qu'il est déjà, calé. D'ailleurs, il est déjà calé dans notre programme. Mais c'est vrai que pour le reste des titres, c'est un peu plus flou pour le moment. Et du coup, vu qu'on vient d'enregistrer les meilleurs mangas de 2025 il n'y a pas très longtemps, je m'inquiète beaucoup pour l'émission des meilleurs mangas de 2026, là tout de suite, tu vois. Parce qu'avec tout ce que j'ai lu, il y a des trucs très bien, mais en fait, là, j'ai que des mises à faire. J'ai aucune certitude, j'ai que des mises.
Et toi, Joe, il y a déjà des trucs sur lesquels tu peux faire jackpot ou pas?
Ah non, moi je vis au jour le jour.
Ah ouais, c'est
là
beau.
Pour lire les trucs.
Carpe diem. Mmh.
On fait le point sur les nouveaux mangas de 2026 dans cette émission, alors restez avec nous, c'est la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards! Oh, this new crazy mother...
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve, le seul podcast où l'on peut les couper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de 2026. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien.
Prêt à parler enfin de nouveautés manga, de trucs qu'on n'a pas lus il y a un an, etc.
Bugle Call, top 2024.
Bugle Call survivra.
Je pense qu'il y a moyen qu'on en parle au mois d'avril.
Ah, c'est bien. Il sera fini, non?
Non, déjà. Bah non, il sera pas fini.
Ah,
non.
Mi-série.
Okay. Mi-série, non. Manga à suivre, ouais. Johnny. Cette année, vous avez vu, on a moins de choix que l'an dernier, à la même époque, où on avait une dizaine de titres en plus à mettre dans cette même émission. C'est pour dire qu'on est, ce qu'on disait dans l'intro, c'est...
C'est la disette. On
c'est
va faire
la
régime.
Disette, ouais, exactement. On avait une quarantaine, là, il y en a une trentaine. Ce qui est déjà pas mal, hein.
Oui, ça va.
Ça va, en effet. Mais bon, c'est moins. Ça reste moins quand même. Et on commence d'ailleurs avec quelques enjeux des éditeurs, à commencer par Ichi the Witch. Alors Ichi the Witch, on va pas beaucoup en parler puisque pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, on vous prépare une émission entièrement dédiée à cette sortie. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui a développé d'incroyables instincts de chasseur en vivant seul dans la montagne. Et contre toute attente, il s'empare de la force d'un magic afin de devenir le premier sorcier de l'histoire de ce monde. Et c'est clairement un des meilleurs titres que j'ai lu sur ce début d'année.
Ouais. Moi, je déteste le héros, mais ouais.
Pourquoi tu le détestes?
Ah, je sais pas, il m'énerve. Je déteste son trait et sa personnalité, je sais pas pourquoi. Alors que j'adore le trait de Actage en tant que tel, mais lui, en tant que chara-design héros, je sais pas, je l'aime pas.
Et pourtant, t'adores le manga aussi?
Oui, j'aime bien l'histoire et tout, et j'aime bien le fait qu'il acquiert ses pouvoirs, et que ce soit un shonen neketsu et tout le tralala, mais sa tête, je la déteste. Je sais pas pourquoi.
C'est drôle quand même.
Ah, la déclaration de guerre.
Ouais, c'est genre...
Toi, ta tête, elle me revient
pas. J'espère qu'il va améliorer.
J'aime tout sauf toi.
Non, mais quoi, Johnny? J'espère qu'il va mourir, le héros.
Non, qui va s'améliorer, qu'il va avoir un
calme
de ouf
enfin.
Avec son magic, mais je sais pas. Franchement, là, pour l'instant,
Ah, mais tu le détestes, quoi, vraiment.
Ouais. Bah, parce que moi, j'aime bien.
Bah, moi aussi, j'aime bien.
Bah, écoute, c'est super coupé.
Bah, moi, je l'ai pas encore lu, je sais pas, mais de base, je vais aller du côté de Joe, hein, je le déteste aussi. Je sais pas ce qu'il t'a fait, mais ça m'a saoulé, moi aussi.
Bah, tu vas voir.
En plus, c'est un garçon au milieu de plein de filles, tu vas aimer.
Mais c'est pas ça le problème.
Oh là, attendez, non, je vais me mettre dans votre équipe, en fait. Je vais me mettre dans votre équipe,
c'est son caractère.
Et donc, Ichi the Witch, si vous voulez dès maintenant le lire, vous avez moyen de le faire sur l'application Manga Nova, puisque tout est disponible jusqu'à la sortie du titre. Comme ça, vous pourrez écouter l'émission en ayant déjà lu Ichi the Witch et puis partager nos impressions. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour en parler. Autre titre, on reste dans le Jump, puisque Itchy the Witch, c'est un manga très attendu qui est issu du Weekly Shonen Jump, et on reste dans le Jump avec ce manga qui s'appelle Me and Roboco, qui fait donc partie de la famille des ovnis hein, du magazine. Quand je dis ovni, c'est de l'ovni ovni, hein, c'est un manga décalé qui est plein de clins d'œil au Jump et au classique du manga. Donc déjà, manga gag, oui. Qui fait des refs au manga. On sait d'emblée que pour la France, ça va être compliqué sur, pour en faire un best-seller.
Ça, c'est cœur de cible chez nous. Hein. C'est toujours cœur de cible.
Bah, en général, ça me touche moi, ça m'a touché Julie aussi en général. Ouais.
Les fans de Gintama. Salut ouais. Les gars, on vous a pas oublié.
Hey, j'adore Gintama.
Ah, ça peut donc toucher Johnny Mien Roboco. C'est un manga d'humour. Hein, et il y a déjà 25 tomes au Japon.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et donc, ça sort chez Mangetsu au mois d'avril. Le 1er avril. Ça sort le 1er avril. C'est drôle.
C'était une blague.
Non, ça sort vraiment le 1er avril, Johnny.
Hey, bien joué, Mangetsu.
Ça s'appelle donc Me and Roboco. Jump, toujours. Autre enjeu, c'est aux éditions Soleil, un titre qui nous plonge dans un monde où les ninjas existent toujours, dans notre monde moderne, hein, ça. Bon, bah, vous connaissez ce genre de pitch, on l'a vu dans plein de titres différents. Mais là, il y a un jeune ninja prodige qui doit infiltrer un lycée pour une mission de protection. Mais ses vrais ennemis ne sont pas forcément ceux qui en veulent à la vie de la fille qu'il doit protéger. Puisque son ennemi, c'est les autres, ce mec est un prodige ninja. Il peut se battre, il peut tout faire, mais il déteste les interactions sociales. Et donc, il va devoir faire face à ses propres peurs pour affronter les autres. Des camarades normaux, alors qu'il n'a aucun problème à affronter des ennemis qui peuvent casser la gueule à n'importe lequel d'entre nous.
Oh, c'est un manuel de survie pour quelqu'un comme moi.
C'est ça. Bah, c'est le principe aussi de ces mangas Jump. Hein. Dès que ça se passe dans un lycée, il y a un côté toujours très manuel de survie. Et les scènes d'action sont vraiment, vraiment chouettes hein, dans Shinobi Undercover. Soleil compte pas mal dessus sur ce titre.
Bah, c'est vrai que c'est marrant. Il y a cette idée que justement le combat, il est plutôt on va dire l'affect personnel du héros plutôt que dans le côté tactique et compagnie. Pour le moment, j'ai vraiment juste ce truc de quelle est la frontière ? Action, gag, tranche de vie ? Je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas trop.
Et on n'est pas tant que ça dans le gag par rapport à un Me and Roboco qui n'est que gag. Là, c'est marrant comme un manga du Jump, quoi.
Ce qui est déjà pas mal. Hein. En vrai, c'est déjà pas mal. Moi, je serais d'ailleurs, de manière générale, je suis toujours un peu plus intéressé par les mangas comme ça qui introduisent un petit peu de l'humour plutôt que sur les mangas gags. Et d'ailleurs, on va le voir dans l'émission que c'est plus mon truc quand il y a des concepts humoristiques plutôt que juste du parodique humour.
Concept pas du tout humoristique avec Mad, direction le Jump Plus cette fois. C'est un titre sur lequel Kazé, anciennement Crunchyroll, mise beaucoup cette année. Et s'il mise dessus, c'est parce qu'en fait, sur le web, ce titre, Mad, ça a déjà dépassé les 40 millions de lectures. C'est dans le monde, hein. C'est, oui, c'est absolument énorme. C'est complètement énorme, c'est un vrai phénomène. Ça se passe dans un monde post-apo avec des aliens, des survivants, de la folie, des peurs. Il y a un petit côté un peu Fire Punch par moment. Et c'est visuellement très étrange, très surprenant.
Ah, complètement déroutant pour ma part. Tu vois le potentiel, mais je trouve que miser sur un tome, c'est quand même un petit peu... ça demande de sortir un peu les tripes, quoi. Allez, casier.
Ça m'a fait penser à Centuria, moi aussi, d'une certaine manière.
Moi, la couve, je croyais que c'était Jésus. Et je me suis dit, merde, on va parler de quoi. Mais effectivement, j'ai vu énormément de fil Reddit dessus, avec beaucoup de gens qui parlent, que ce soit l'étymologie des prénoms, plein de trucs. Et j'ai fait, bon, ok, ça a l'air vraiment d'intéresser tout le monde.
Il y a beaucoup à dire, mais ouais, un tome, c'est peut-être pas suffisant pour vraiment être à fond dedans.
Un petit successeur de l'attaque des titans, peut-être, tu sais, phénomène qui était déjà sur le web avant même l'édition en France. Le côté mystérieux, tout ça, Johnny parle de Phil Reddit, ça me fait toujours penser aux théories de fans, tu vois.
Ouais, carrément.
Donc je sais pas.
En plus, t'as de quoi faire des théories, ce qui est un peu de faux-semblants et tout sur Mad, mais c'est assez, c'est assez attendu et c'est assez intriguant. Donc ça sort aux éditions Kazé au printemps, donc ne ratez pas non plus cette sortie, et je pense que vous allez la voir quelque part, et il y a moyen aussi qu'on en reparle dans une émission bientôt, tout comme Love Bullet, c'est chez Vega. Chez Vega, on va miser sur ce seinen cette année. Love Bullet, c'est de l'action, de la romance, du drame dans une série où on suit des cupidons avec des flingues. Ça donne donc lieu à des scènes de gunfight, mais pour trouver l'amour.
Oui, c'est ça. Alors, c'est bizarrement passionnant. On est quand même, faut capter qu'on va suivre quand même quatre meufs cupidons qui doivent créer des couples en tirant des balles de flingue, littéralement. Mais ça reste quand même des filles adolescentes, préadolescentes. Donc déjà là, t'es une mauvaise vibe, tu vois. Leur dis donc, elles sont bien jeunes, ces héroïnes. Et donc t'as ce mix très improbable de l'action et de l'action gunfight, parce qu'elles vont s'affronter entre elles pour savoir qui va avoir le droit de sceller ce couple ou ce couple.
Ouais, c'est dans le chapitre 1 ça en plus.
Oui, ça c'est vraiment le... Et au début t'as l'impression que justement dans le chapitre 1 t'as l'impression que c'est une blague, cette histoire de elles vont se taper dessus. Et plus t'avances dans le manga et plus tu vois que c'est hyper bien chorégraphié, qu'il y a vraiment une attention particulière. À certains moments je me suis dit tiens, c'est hyper violent, et en fait non, c'est pas si violent que ça, parce qu'il leur arrive jamais rien pour le moment, en tout cas quand elles se tirent dessus entre elles. Mais il y a vraiment ce truc d'action. Oui, ça, elles ont un effet
10 minutes hors jeu.
Un effet néfaste. Mais du coup il y a ce truc action survoltée qu'on retrouve beaucoup ces dernières années dans des titres comme Sakamoto ou dans Kindergarten Wars. Et le truc qui m'a le plus dérouté, c'est qu'en même temps c'est ultra touchant, parce que évidemment ça va raconter des histoires d'amour, des histoires d'amour qui n'ont jamais eu lieu. Eh ben, il m'a chopé là-dessus, sur le côté, attends, c'est blindé d'action, et de l'autre côté, c'est touchant. En fait, le seul problème que j'ai avec cette série à l'heure actuelle...
C'est les cœurs.
C'est les quatre héroïnes, tu vois, où je suis pas comme Joe, je déteste pas les femmes, mais il y a un truc où ça me dérange un peu d'avoir des petites filles avec des armes, tu vois, qui tirent dans tous les sens.
C'est pas des femmes. Oui.
C'est une imagerie qui, voilà, me dérange un peu, mais le titre est super. Pour le moment, j'ai vraiment trouvé qu'il était super, et je suis très curieux de ce qu'il va pouvoir raconter sur la suite, parce que pour le moment, on a juste un début de scénario, évidemment.
Avec un flashback dès le tome 1, c'est assez rare les flashbacks dès le tome 1. T'en dis quoi, toi, Julie?
Ah bah moi c'est mon chouchou, dès qu'il est sorti au Japon, il était dans ma ligne de mire. Vraiment, il est drôle, dynamique, il y a de très bonnes idées graphiquement, comme disait Cagnard, c'est du gunfight aussi, c'est ça, il y a le côté très euphorisant d'avoir des vrais combats, des belles chorégraphies, des choses très dynamiques, et vraiment, dessus tu mets des bons sentiments qui sont pas aussi neuneux, ou en tout cas qui sont pour le coup vraiment touchants, et moi j'ai envie d'en lire plus.
Ça s'appelle donc Love Bullet, ça sort le 13 mars prochain aux éditions Vega, et c'est signé Aini, et il y a déjà deux volumes au Japon, donc on est vraiment sur
au cul du camion.
Au cul du camion, exactement. On va garder cette expression, Julie, on sera donc au cul du camion de Love Bullet pour la sortie de ce manga. Ça, c'était pour ce qui concerne, on va dire, quelques enjeux des éditeurs. Et d'ailleurs, c'est pas parce que c'est un enjeu de l'éditeur que ça va forcément être un carton absolu. Il y a aussi parfois des bonnes surprises. Puis il y a même, nous, des choses qu'on a préférées dans ce qui n'est pas des enjeux, mais ça, c'est notre petit truc à nous aussi. On aime bien les petits canards un peu boiteux.
Ouais, les outsiders.
Les outsiders.
Les mangas mal traduits. Tout ça, on aime bien.
Donc, place à l'un de ceux-là, et à même deux de ces titres-là qui font partie de nos petits chouchous de ce début d'année. Et j'ai intitulé cette partie E.T. Téléphone Maison.
Tout à fait.
Parce qu'on parle de deux mangas où il est question d'extraterrestres. Et les deux sortent aux éditions Kiun cette année. Le premier, c'est Cosmos, l'histoire de Kaede. Kaede, c'est un détecteur de mensonges vivants. Il arrive à repérer à l'odeur si les gens mentent ou pas. C'est parfait pour intégrer le groupe d'enquête d'une compagnie d'assurance intergalactique. Oui, tout à fait, parce que les aliens sont sur Terre et depuis longtemps. Ils vivent parmi nous, l'air de rien, exactement comme dans Men in Black, évidemment. C'est signé Tamura, l'auteur de Beelzebub et ancien assistant de Toshiaki Washiro, qui est donc de retour avec ce titre qui est, je pense, l'un des titres que j'ai préféré lire sur ces 4, 5, 6 premiers mois de l'année, de ce que j'ai pu lire pour l'instant.
Ouais. Bah après, on est habitué à Tamura, hein. C'est un auteur qu'on aime bien. Je trouve que le mix, il est excellent. Là, on est entre Uchijima pour le côté usurier, tu vois, et évidemment, Men in Black. Le mix est improbable, et j'ai vraiment envie que ça marche, parce que déjà je trouve que c'est très beau encore. J'ai l'impression qu'il a encore pris un petit peu de niveau sur cette série, et c'est juste que moi j'aimerais bien que ça marche pour Tamura, parce que c'est vraiment un auteur que j'aime bien, et c'est pour ça qu'il est dans cette partie, comme tu dis, un peu canard boiteux, parce que ça fait partie de nos auteurs où on est là, j'aimerais vraiment bien que ça marche pour lui, parce que Beelzebub j'avais adoré, et même les séries qu'il avait fait derrière, elles étaient souvent courtes, mais il y avait toujours un bon truc, tu vois, et là j'ai l'impression qu'il a potentiellement trouvé une bonne formule pour à la fois faire du gag et en même temps lancer potentiellement du scénario fil rouge derrière. Donc là, je croise les doigts, je me dis c'est peut-être la bonne pour lui.
À noter juste un petit détail, c'est qu'il a aussi changé d'éditeur au Japon. Il n'est plus édité par Shueisha ou l'un des magazines Jump Plus ou Weekly Shonen Jump. Il est passé chez Shogakukan. Donc ça veut dire aussi qu'il a pu changer de staff, d'accompagnement et ainsi de suite.
Ah, mais c'est peut-être aussi pour ça que, parce que son dernier titre c'était Bad Cop and Dolphin, je crois.
Badass Cop and Dolphin.
Ouais, c'est ça. Et là c'était très humour, très axé humour. C'était marrant, en vrai moi j'avais bien aimé, mais toi j'ai pas continué la série. Alors que Cosmos, je sais que je la finirai parce que c'est vraiment cool. Et puis on sent que son dessin, pareil, il a encore évolué, j'ai l'impression.
En tout cas c'était une très bonne surprise. Et effectivement t'as envie d'en savoir un peu plus parce que, comme disent mes collègues, je me souviens de son trait qui était très humour pour moi, et là c'est complètement différent. Enfin, il y a vraiment des très belles planches, des beaux dessins, toujours avec beaucoup de dynamisme, et en plus tu sens que il y a vraiment moyen de développer toute une série d'histoires à la fois intrigantes, à la fois touchantes. Donc banco.
T'as le choix parce que tu peux développer un univers de fou exactement comme dans Men in Black à partir du moment où tu te dis, il y a des gens qui viennent de plein de planètes. Donc là, tu peux faire des êtres de toutes les formes, avec tout un tas de pouvoirs. Ils commencent déjà à faire intervenir la gravité dès le tome 1. Donc en fait, t'as un monde qui est incroyablement ouvert, avec des possibilités absolument folles pour lui en tant qu'auteur, en tant que créateur. Il peut aller absolument où il veut. Et en plus, il a ce côté Men in Black, dans le sens où c'est bon, on a les codes. Donc il a même pas besoin de nous les expliquer trop longtemps ou d'appuyer vraiment dessus. Le fait que des extraterrestres vivent sur Terre cachés, c'est quelque chose d'assez basique, mais d'assez facile à comprendre. Et comme ça, il peut aussi, lui, avancer, lancer son scénar.
Maintenant,
quoi.
Il faut juste qu'il prenne le temps d'expliquer comment ça fonctionne, les assurances. Et que nous, on lise bien toutes les petites lignes qui sont toutes en bas des contrats.
Mais tu vois, ça, je trouve que ça se voit qu'il est différent, celui-ci, parce qu'il n'a pas tout misé, justement, sur l'humour. Parce que souvent, dans ses précédents mangas, il essayait d'aller le plus loin possible dans l'absurde. Et ça fonctionnait, il sait le faire. C'est quelque chose qu'il sait le faire.
C'est peut-être le changement de Tanto.
D'éditeur et de Tanto, oui. Et là justement je sens que dès le tome 1 on est quand même sur des histoires qui sont un petit peu touchantes parce que c'est souvent lié à des problèmes d'argent, donc qui dit problème d'argent c'est problèmes familiaux et compagnie. Donc déjà il amène cette dimension un peu émotionnelle, on va dire, qu'on n'avait pas du tout sur ces derniers titres, on va dire, et même sur Beelzebub pas tant que ça finalement.
Ouais, moi j'ai un truc de Beelzebub que je retrouve, c'est le côté baston sérieuse. C'est quand la scène quand ils sont dans le métro, là j'ai revu des choses que je pouvais voir dans Beelzebub qui étaient assez bien faites, quoi.
C'était ça le grand point fort de Beelzebub, c'est que c'était extrêmement drôle et qu'en même temps d'un coup d'un seul on passait à des trucs très sérieux, comme encore une fois dans Sakamoto maintenant ou dans Kindergarten, où voilà, l'ambiance pouvait changer du tout au tout en deux secondes.
Et même les vannes, il les faisait super sérieusement à partir du moment où il a dit ok, ce conflit dans Beelzebub, on va résoudre ce conflit, cet affrontement en faisant un match de volleyball.
Par exemple.
Et tous les mecs font le match de volleyball comme s'ils allaient en mourir s'ils le perdaient.
Comme si c'était le dernier tome de IQ, quoi. Ouais, vraiment, avec la même intensité.
Et là, dès le début, j'ai retrouvé de l'intensité dans le personnage de Kaede aussi, qui est assez intéressant. Puis en plus, cette aptitude, tu vois, d'être détecteur de mensonges.
Ouais, c'est trop bien.
J'aime bien ça. Ça s'appelle donc Cosmos. Et Cosmos, ça va sortir donc aux éditions Ki-Hoon le 2 avril prochain. Notez la date, 2 avril pour Cosmos. Autre manga Ki-Hoon s'appelle Rai, 7e place au prix du Kono Manga Gasugoi. Ce manga a été recommandé par Wan, le créateur de One Punch Man. Et là, ce manga met en scène une planète Terre qui a aussi été envahie par des extraterrestres. Mais alors là, cette fois, c'était dans le passé et il y a eu une vraie guerre. C'était pas une infiltration. Là, il y a vraiment eu une guerre contre des aliens qui ont voulu envahir la planète Terre. Et aujourd'hui, il reste surtout des sortes de cafards aliens à exterminer. Et il y a même des sociétés, dont celle Business. Mais Sumire, l'héroïne, elle va devoir faire colloque avec un vrai alien puissant. Mais pas colloque, ils vivent au même endroit. Colloque, ils vivent dans le même corps.
C'est au même endroit.
Ce qui est au même endroit, mais ça donne un petit peu plus de promiscuité que juste en coloc. Et un manga où je me suis aussi bien marré, l'un comme l'autre, Cosmos, Die Die, Rai Rai Rai. Les deux m'ont bien fait rire et j'allais dire Die 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 parce qu'en fait, Rai 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 m'a fait pas mal penser à Die Dark.
Oui, bien sûr.
Mais comme si tu prenais un peu de Die Dark et un peu de Kaiju 8. Genre un peu entre les deux et c'était assez rigolo à suivre et j'adore la couverture.
Oui, et ben en fait les vibes sont très très cool dans ce manga et on sent toutes sortes d'influences. Donc toi tu citais Hayashida-kyu, donc à qui on doit Die Dark par exemple, mais il y a plein de petits clins d'œil à la culture manga des années 80-90. Moi j'ai vu du Akira, j'ai vu l'héroïne avait quand même beaucoup pensé à Ranma, et il y a aussi tout ce qui est le côté humour englobe tout ça très bien et je pense aussi qu'on a eu droit à une bonne traduction qui du coup renforce vraiment le côté humoristique de cette série.
Et toi Joe, t'en dis quoi ?
Moi j'en dis que je vois ce que vous voulez dire avec Die Dark parce que c'est vrai qu'on peut sentir l'influence, mais Die Dark c'est très brut, c'est très noir, alors que là, clairement, dès le départ, c'est sûr que c'est du Ranma 1,5. Déjà parce qu'on voit la femme, c'est son portrait craché. Et surtout, le nom de sa société, c'est Sao Tome. Et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est forcément un hommage. Et le mec, il est rentré là-dedans. Et donc, pour moi, il y a un énorme humour sur Ranma 1,5. Mais après, oui, il y a un petit peu Die Dark. Mais c'est vrai que le Kaiju 8 est presque aussi omniprésent. Pour moi, c'est Ranma 8. Mais c'était très drôle, j'ai bien aimé. Je veux juste un fil rouge parce que là, moi, les petites histoires, c'est comme d'habitude, c'est marrant, mais moi, je veux une vraie histoire. Quoi.
Et toi, Camilla?
Ben, c'est le chouchou, hein. C'est mon chouchou de la saison, celui qui m'a donné le plus de plaisir de lecture. Parce que,
ah, plus que Cosmos.
Ouais, plus que Cosmos parce que c'est fou, ça va dans tous les sens, c'est foutraque. Je suis même pas sûr d'avoir bien compris l'histoire ni l'univers spécialement. Alors évidemment, Kyua Yashida, ça fait évidemment penser à ses titres, un peu plus à Doro et Doro de mon côté. Mais j'ai limite l'impression d'avoir Doro et Doro dans le Shonen Jump, quoi, en gros. Donc une case un peu moins hardcore peut-être, mais effectivement il y a plein de références pop culture. Il y a un dessin qui, c'est vraiment Akira pour le coup qu'on voit, et c'est vraiment celui qui m'a fait le plus rire. Mais je ne sais absolument pas ce que j'ai lu parce que on n'a même pas le stand de base, tu vois. Si le stand de base, c'est que normalement il n'y a plus d'extraterrestres sur la Terre, il n'y en a pas eu depuis je sais pas combien de temps, il reste juste les bestioles à détruire. Et en fait, bah du coup, a priori, ça serait potentiellement le retour des extraterrestres via le personnage principal, mais ce n'est absolument pas l'intérêt du tome 1. Le tome 1, c'est que tout le monde est débile dedans, vraiment. Il n'y a aucune once d'intelligence dans les réactions de n'importe quel personnage, que ça soit de l'héroïne, de l'extraterrestre qui va prendre possession, du gouvernement, des collègues. Tout le monde est taré, et ça, pour le coup, c'est le truc que je rapproche le plus des récits de Kyu Hayashida, où tu sais, souvent on a dit qu'ils avaient des réactions d'enfants, les personnages qu'elle crée. Eh ben, j'ai retrouvé ce truc à mort, tu vois, mais attendez, c'est invivable votre truc là, il n'y a pas une seule personne intelligente. Mais ça m'a fait vraiment mourir de rire, j'ai pas arrêté de sourire, c'était vraiment trop cool.
La chercheuse, elle en tient une bonne couche aussi.
La chercheuse est folle.
Avec sa tête, surtout sa tête.
Mais même l'extraterrestre, je le trouve tellement taré, aucun instinct de survie, tu vois. Il est vraiment en mode...
Je vais vous défoncer.
Mais ouais, c'est vraiment, je vais vous défoncer. Et il n'y a pas moyen de discuter. Normalement, il y a toujours une petite phase où se dire, bon, il va peut-être falloir qu'on s'entraide et compagnie. Non, là, c'est lui, il est resté en mode 1, pilote automatique, ouais. Détruire l'humanité.
Et il ment, en plus.
Et oui, il ment.
Mais ça, c'est un truc qui m'a un peu surpris, c'est le chara-design des monstres. Parce qu'au début, je me suis dit que le monstre était vraiment nul, là, la sorte de gros truc poilu. Et après, quand ils sont ouverts en deux, j'ai fait « Ah, ça, c'est vraiment bien. » Ça, je me suis dit, on va rigoler, on va passer un bon moment. Mais c'est clair que les combats, les tenues et tout, c'est du Kaiju 8 100%.
Ça s'appelle Rai, Rai, Rai. C'est signé Kei Yoshiaki. Et la couverture, vous allez la reconnaître. Ça sort le 5 mars, c'est une couverture jaune.
Jaune pétard.
Ouais, avec donc l'héroïne qui ressemble un peu à Ranma et une tête d'extraterrestre dans les mains. C'est comme ça. Là, au moins, vous allez pouvoir repérer ça.
Ça fait quand même deux titres de SF qui vont chez Kiyun directement. Est-ce qu'ils sont pas en train de se faire un revenge Dan Dan Dan, tu vois, genre, on n'a pas eu Dan Dan Dan, alors on va faire que de la SF.
Ça m'a fait... Il y a un petit côté Dan 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 aussi qui m'a, oui, bien qui sûr, m'a fait penser dans Rai.
Mais dans le, plus du nom, dans le titre de Tamura aussi, je trouvais qu'il y avait, il y avait un côté de Dan 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 parce que ça ouvre, comme tu dis, cette perspective d'extraterrestres loufoques, absurdes, qui font tout et n'importe quoi.
Place maintenant à quelques créas, et d'ailleurs on commence avec un titre qui n'est pas vraiment une créa, ça s'appelle Kraken Mare, c'est un titre de SF, on le met dans les créas mais vraiment ça devrait pas parce que c'est un dessinateur italien et un scénariste français qui travaille donc pour le célèbre magazine Afternoon. Donc ça veut dire que c'est directement publié au Japon sans passer par la case France.
Mais que font les Japonais?
C'est pas ce qu'on appelle habituellement une créa puisque en fait c'est exactement comme les autres mangas, ça suit le schéma de n'importe quel autre manga. C'est juste que comme c'est un scénariste français, un dessinateur italien, bah je sais pas, j'ai envie de le mettre là. Non, puis comme ça, ça remplissait cette case. J'avais décidé de faire. En fait, je m'en suis rendu compte après que je me suis dit, mais c'est pas une créa en fait, Kraken Mare. Pas du tout. Bref, c'est dans le magazine où on retrouve Vinland Saga ou Journey Beyond Heaven. Et donc, ils partagent les pages. Donc, c'est classe quoi. C'est très très classe. Joe, t'en as dit quoi de ce manga?
Bah, tu veux pas faire d'abord, c'est quoi ce petit pitch de titre SF?
Non, j'ai prévu de le faire après, comme tu peux le voir dans le conducteur.
Bah, je sais pas parce qu'il y a une ligne avant, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, au début, bah, du coup, c'est un titre SF, je vous spoil un peu, mais j'avais une grosse vibe Chronique de Riddick, sauf qu'on va pas se voiler la face, hein. Riddick, c'est assez simple, c'est un gros méchant qui parle pas et qui tape beaucoup de gens.
Les Chroniques de Riddick, le film.
Les Chroniques de Riddick, le film avec Vin Diesel.
La trilogie de films.
Oui.
Et Riddick Back.
J'en ai craché tellement que j'aime pas cette...
Mais arrête, elle est trop bien.
Mais oui, c'est trop bien.
Mais effectivement, après, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que les Chroniques de Riddick. On a beaucoup d'informations, on engrange vraiment énormément d'informations. Passer des premiers chapitres, si vous y arrivez, et ben en vrai c'est super. Moi j'ai trouvé que il y a un monde qui se développe et un univers qui est assez huge, et je me suis dit putain, réussir à faire ça aujourd'hui, bah c'est pas donné à tout le monde et c'est cool de pouvoir rentrer dans une sorte de série SF comme ça. Donc j'ai hâte de lire la suite.
Tu m'avais parlé d'une autre F aussi que tu trouvais.
Oui, je suis con, oui, ça fait une grosse vape The Expanse. J'adorais The Expanse et là on
une
rentre
série pas, télé, ouais, une série télé de science-fiction dans l'espace.
Racheté par Netflix, je sais plus à quel moment, mais il y a cette histoire de complot politique, complot religieux, spirituel, on sait pas qui veut faire quoi et du coup tout le monde est impliqué. Et là, il s'en sort assez bien justement avec toutes les factions, tout le pseudo hérésie religieux qui est pas mal.
L'éther noir est donc une matière que l'on peut trouver dans ce manga et que l'on peut forer dans des trous noirs. C'est une source d'énergie qui a permis à l'humanité de s'étendre à travers la galaxie, à travers même les galaxies, sauf que son extraction a libéré des monstres de l'espace, des Kraken, d'où le titre, hein, Kraken Mare. Et donc, mille ans après, le forage des trous noirs est interdit, mais pas impossible. Et donc, le manga s'ouvre sur un forage clandestin et ça va évidemment mal tourner. Moi, j'ai été étonné par l'héroïne parce qu'en fait, le personnage qu'on suit dès le début, c'est une méchante. C'est pas c'est ta peau au début tu dis mais attendez elle est méchante, enfin je
non au début
c'est
tu
pas,
dis
c'est pas bien
bête.
Ce qu'elle fait,
ouais, je suis pas sûr que ce soit une gentille non plus là, même à la fin, enfin
même
je veux dire,
mais oui
moi, je suis désolé mais je la mets toujours pas du côté du bien,
non mais sauf qu'à la fin du coup tu dis ah ok elle a des excuses, mais ouais. c'est assez surprenant et vous faites pas trop avoir par le côté rodage, hein, du début du tome 1 parce qu'après quand le rythme est installé c'est lancé. Et pour en avoir discuté avec l'éditeur et le scénariste qui était donc en France pour le lancement du manga, c'était très chouette de pouvoir discuter avec eux, et ils me disaient que leur volonté c'était vraiment de refaire un manga de science-fiction comme ça se faisait dans les années 90. Donc vraiment avec beaucoup d'infos, avec
de la hard SF,
quelque chose de très hard SF avec un gros univers, donc c'est quelque chose qui se fait plus trop au Japon, et les éditeurs et les équipes de l'Afternoon étaient très contentes de trouver ce genre de récit, ouais. Ça s'appelle, oui.
Moi, je disais que ça, c'est un truc cool parce que après, à la fin de chaque chapitre, t'as une petite page encyclopédique sur alors l'éther noir, alors l'atome ainsi, etc. Et du coup, tu le découvres au fur et à mesure du chapitre et tout d'un coup, t'as l'explication plus ou moins qui complète le reste. Et j'avoue, ça, c'était bien.
Et ça aussi à l'ancienne un peu, je trouvais. Kraken Mare donc aux éditions Pika et c'est déjà disponible. Place maintenant à une autre créa, s'appelle Requiem Chevalier Vampire. Là encore, on est dans l'originalité puisque ce manga... c'est l'adaptation d'une bande dessinée, mais pas une adaptation comme un webtoon qu'on aurait mis en format bouquin. Là, tout a été redécoupé et surtout redessiné, etc. Tout a été refait en fait au format manga pour en faire un vrai manga. Et dedans, on y suit un chevalier vampire dans une guerre contre d'autres créatures démoniaques. T'en dis quoi, toi, Julie ?
Eh bien, moi, je dis, il faut s'accrocher. Surtout au début, quand on ne connaît pas cet univers, ce qui est mon cas, hein, parce que vraiment, ça fuse de partout. Il y a tout un vocabulaire, il y a tout un univers qui se déploie. Et surtout, il y a une profusion graphique, picturale, vraiment. On en prend plein les yeux. C'est hallucinant de voir le niveau de dessin et le niveau de détail qu'il y a dans chaque planche, ou voire chaque case, parce que c'est en fait le retour en fanfare du manga gothique. Enfin, il y a vraiment tout cette... ça fait appel, les croix, le satanisme, avec tout ce qu'il a pu prendre dans la pop culture, qui est revisité donc sous un format manga. Et moi qui d'habitude ne lis pas beaucoup de créations françaises, là j'étais vraiment vraiment soufflée. Je me suis dit que c'était vraiment une chouette aventure, quoi.
Et donc le nom doit vous dire peut-être quelque chose, hein, Requiem Chevalier Vampire, parce qu'en fait c'est une série de bandes dessinées de dark fantasy d'Olivier Ledroit et de Pat Mills, et donc ils ont Glénat a eu cette idée étrange. Enfin, au début, tu te dis, mais quelle drôle d'idée, pourquoi faire ça? Et en fait, effectivement, quand tu as le bouquin dans les mains et quand tu vois il est déjà sorti, le lancement et les premiers retours, tu te dis, ah bah en fait, c'était peut-être une bonne idée de faire ça.
Oui.
Mais assez surprenant comme idée.
Oui, et puis surtout, donc en fait, il y a un duo de créateurs français pour la BD.
Seban et Victor Santos.
Voilà, et là, c'est le duo
pour le manga.
Et je trouve que du coup, c'est intéressant aussi d'avoir cette espèce d'extension d'un univers créé à quatre mains. Parce que ils se concertent beaucoup, ils ont dû beaucoup brainstormer, quoi, pour arriver à ce résultat. Et je trouve que c'est vraiment, c'est enthousiasmant, encore une fois, parce que on se dit que les possibilités du manga, elles sont là, elles sont tout est ouvert, quoi.
Requiem Chevalier Vampire, donc, c'est d'ores et déjà disponible aux éditions Glénat. Un petit mot sur No Deville qui va sortir au mois d'avril, une autre création sur laquelle il faudrait garder un œil quand ça sortira. No Deville, c'est signé Senshiro, qu'on a pu découvrir avec le manga Sweet Concrete il y a quelques mois maintenant, et cette fois il propose une histoire où se mêlent fantastique, action et romance. J'ai pu voir que quelques pages pour l'instant, mais j'aime vraiment son trait. Il y a aussi de l'humour, faut qu'on garde un œil sur ce manga qui s'appelle No Deville, et puis ça sortira donc aux éditions Kana, tout comme la bande dessinée Smoke qui est sortie. Là aussi, c'est une créa. Et là, c'est une créa où ils sont allés chercher au Great. Ouais, voilà. Au Greato. On en a déjà parlé, hein, dans l'émission qu'on a fait, l'émission qui lui était dédiée. On en a parlé aussi en fin d'année. On en a parlé plusieurs fois de au Great. Mais si tu voulais en redire un mot sur Smoke, Johnny.
C'est actuel. Voilà. On va parler d'IA, on va parler de transhumanisme, et c'est assez bien fait, c'est très joli, ça sort du style un peu au Great, vu que c'est beaucoup plus réaliste, et c'est en couleur, grand format, BD, très bien.
Ça s'appelle Smoke, et en plus, au Great vient aussi de retour en France à l'occasion de la sortie de cette bande dessinée. Ça, c'était pour les créas. Maintenant, il y a des rééditions, et il n'y en a pas qu'un peu. Hein. Peut-être un peu moins que l'année dernière, mais il y en a quand même pas mal cette année. On commence avec Arms. Moi, c'est un de mes chouchous, retour d'un classique, hein, du manga de science-fiction. C'est le manga qui a inspiré Isayama. On en avait fait des tonnes à l'époque quand Isayama était venu en France.
Ouais. Bah, j'avais acheté du coup la collection très vite, avant que ça dédouble. Et en fait, ça n'a pas du tout doublé. Donc mais au moins, j'ai quand même ma collection. Elle est très bien.
Donc voilà, c'est le manga qui a inspiré Isayama sur l'attaque des titans. C'est signé Ryuji Minagawa, l'auteur de Spriggan, hein, qu'on a pu voir avec la nouvelle édition. Et donc là, c'est une réédition en tome double, un peu plus grand que la taille normale, plus grand que l'ancienne édition. Ça va sortir aux éditions Mangetsu, et dans ce manga, il va être question du projet ARMS, un programme énigmatique. Et ARMS, Joe, ça veut dire...
Bras ou arme ?
Bras.
Ah, ça veut pas dire du tout.
Qui se transforme en arme.
Non, mais moi, je me rappelle très bien de ce titre. Hein. J'avais 18 ans et j'étais en unité informatique quand je l'ai lu. Et ça m'avait...
Ah, c'est il y a pas longtemps alors.
C'était il y a 12 ans.
Gros geekos.
voilà, clairement. Et c'était avant que le mythe d'Alice soit en comment dire en à la mode, parce qu'il y a eu un moment on avait beaucoup de trucs avec Alice au Pays des Merveilles, mais vraiment énormément de titres. Et ben Arms, il était là en premier, et vous allez voir pourquoi.
Alors ne ratez pas la sortie de Arms au printemps aux éditions Mangetsu, édition qui va arriver pour cet été. C'est Yu-Gi-Oh, ouais. Le roi est de retour. Le roi, ah, ouais.
Le roi à qui il l'a déjà appelé comme ça?
À moi.
Ah oui, d'accord.
L'heure du duel.
Ultime manga du Jump des années 90-2000. Vous avez probablement dû entendre parler, peu importe votre âge, mais je suis sûr que vous avez probablement entendu parler de Yu-Gi-Oh. C'est sûr et certain. Ce manga donc utilise les ressorts du TCG, du jeu de cartes à collectionner, et ça a donné vie à une licence qui est toujours très très vive aujourd'hui. Il y avait encore un championnat du monde de Yu-Gi-Oh, d'affrontement de vraies cartes, hein, avec, gagné par un Français d'ailleurs.
Ouais, bah ils sont toujours là les Français, hein, sur le TCG.
Bah, merci YouTube, hein, pour Yu-Gi-Oh, mine de rien, parce qu'avec toutes les ouvertures de cartes et compagnie, tu sais, ça a vraiment développé Yu-Gi-Oh de ouf, hein, là-dessus.
Le magicien des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus. Vous vous souvenez des noms?
C'est le seul blaze.
Le dragon blanc à trois têtes aux yeux bleus. Non,
le Stardust dragon, il y a les dieux égyptiens aussi.
Oui, avec le collier et tout.
Il y avait le magicien violet aussi.
Il y avait Exodia, c'est surtout ça. Il a mis les cinq membres et ça y est, c'est Exodia. Bah, c'était trop bien.
Tellement de souvenirs de Yu-Gi-Oh! Bref, Yu-Gi-Oh! Est de retour cette année. Trop chouette, ça sera pour le début de l'été. Retour qui est déjà en librairie, ça s'appelle Please Save My Earth, shoujo fantastique qui a marqué énormément de lecteurs et de lectrices à l'époque en France à la fin des années 90. C'est un peu plus ancien au Japon, c'est l'histoire d'Alice qui est en fait la réincarnation d'une habitante de la Lune, et elle n'est pas seule dans ce cas. Rêve, flashback, doute adolescent, ça fait un cocktail vraiment détonnant. Tu te souviens de Please Save My Heart?
Alors moi j'étais un peu passée à côté, mais j'avais des amis qui m'en parlaient beaucoup, et donc j'avais quand même jeté un coup d'œil, effectivement, et je crois qu'on était resté sur une énorme frustration parce qu'on n'avait pas eu la fin. Donc là, je te dis, c'était une très très bonne nouvelle quand j'ai vu que ça y est, ça allait être édité. Ouh, on était toutes contentes avec mes copines.
Aux éditions Panini Manga, ça a été tout juste annoncé là au moment où on enregistre cette émission aussi. C'est un autre shoujo culte qui est de retour, c'est Basara.
Yay!
T'en avais parlé donc dans les mangas oubliés il y a quelques temps. T'en avais parlé aussi dans les mangas pour chialer.
Ah ouais, bah oui, ça fait pleurer quand même. Enfin, en tout cas, certains passages font pleurer. Et donc, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont l'acheter et pleurer avec nous.
Notez sur votre petite carte, surveillez la sortie donc de Basara. Ça ressort aussi, et c'est d'ores et déjà par rapport au moment donné où on publie cette émission. Par rapport au moment où on publie cette émission, ça doit déjà être disponible. Le cœur de Thomas, un autre shoujo culte de Moto Hagio.
Oui. Bah oui, et puis en fait, bah le cœur de Thomas, comment dire, il avait raté sa sortie, quoi. Enfin, donc là, il faut lui offrir une deuxième chance, et là, on a vraiment le package premium du boys love, le pensionnat de garçons, les histoires d'amour, les sous-entendus, les histoires, un peu terrible de violences qui sont plus ou moins cachées, donc oui, c'est culte, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir aussi tout ce dont Moto Hagio est capable, quoi.
Et donc ça ressort aux éditions Akata, et à l'époque c'était sorti aux éditions Kazé, devenu Crunchyroll, redevenu Kazé. Ça me fait rire à chaque fois, pardon. je m'en lasserai jamais. Autre manga culte, un josei, s'appelle Kings on the Slope, qui se déroule dans les années 60 au Japon. Une tranche de vie qui explore l'amour, l'amitié, le jazz aussi. Ça avait reçu le Grand Prix Shogakukan pendant sa publication au Japon, et ça revient aux éditions Mangetsu, ouais. Kids on the Slope.
Je pensais pas que c'était si vieux que ça pour mériter une réédition.
Ah ouais, parce que Yuki Kodama, elle a quand même une carrière vachement, enfin maintenant quand même importante, mais c'était vrai. Enfin, je crois que c'était un de ses premiers succès.
Oui, t'as raison.
Ce qui était bien, c'était aussi que ça avait été vite adapté en animé, et comme ça parle de jazz.
Par Watanabe.
Et oui, ça avait eu aussi beaucoup de retentissement, quoi.
Bah après, le truc, c'est qu'il est arrivé après Beck, donc voilà, quoi.
je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un lien, puisque c'était la musique.
Non, mais si, parce qu'en gros, moi, je sais qu'en termes de musique, il y avait toujours Beck qui était là, et Kid on the Slope, il est arrivé seulement 2 ans après, et pour moi, je suis il y a Beck déjà, donc qu'est-ce que tu fous là? Et voilà, c'est pour ça que j'ai jamais lu.
Oh, mais c'est historique.
C'est vrai que plus d'un titre qui parle de la musique, c'était trop. Ouais. C'était trop.
L'Arcane de l'Aube est aussi réédité en France cette année. Celui-là, je ne l'attendais pas. Un shoujo de fantasy culte qui reviendra sous la forme d'une édition double, à l'image des éditions récentes de Fire Punch ou de IQ. Et cette ressortie sera accompagnée par le lancement de La Bête du Roi, qui se déroule dans le même univers que l'Arcane de l'Aube. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Réédition cette fois, pas de shoujo ni de josei, mais du nouveau manga de Shang-Cheng, qui n'est pas nouveau puisque c'est une réédition. C'est sorti à l'époque chez Kotoji Édition. Ça s'appelle Old Man. Shang-Cheng, c'est à lui qu'on doit déjà Yan ou Baby. Et Old Man, dans ce manga, c'est le nom d'un vieux magicien au XVIIe siècle, dans un lointain royaume. Mais un jour, de manière mystérieuse, il s'évade de prison, bien décidé à se venger de ceux qui l'ont enfermé.
Est-ce que tu me permets de raconter la séquence d'introduction du manga ?
Vas-y.
Parce que je l'ai adoré. Hein. On démarre avec un petit garçon qui a 9 ans. Tu vois qu'il vit dans un château, donc c'est un prince. Il est en train de faire un tour de magie à sa mère, qui est la reine. Et il dit, au fond de ce chapeau, voici une grenouille. Hop, on coupe. Tu vois que sa mère, elle est blasée, elle est là. Ouais, super, tour de magie, bien ouais. On passe, on arrive directement à ce vieillard qui est dans sa prison. Il y a la reine qui vient le voir et lui qui dit « Est-ce que je peux te faire un tour de magie ?» Et à partir de là, l'histoire démarre. Il réussit à quitter la prison, non sans emporter avec lui pour assouvir sa vengeance.
Sa grenouille.
Une femme tronc.
Ah.
Voilà, à partir de là maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez lire Old Boy, Old Man, s'il vous plaît.
Old Man donc, aux éditions Glénat. Et ça sort le 11 février, dernière réédition avec la sortie d'un bouquin qui va être à mi-chemin entre hommage et manga, anecdotes de création, interview avec une histoire inédite de 55 pages dedans qui avait été réalisée pour le 21e anniversaire de la série. Eyeshield 21, pour toi Joe, c'est toujours top 10 des mangas de sport ?
Oh, t'es malade, top 2 je pense.
Ouais, je crois qu'il essaye de te chauffer.
Non mais top 10, je sais même pas si je connais 10 mangas de sport.
Oh, bah si quand même.
Non mais j'en connais 10, mais je me mettrais même pas dans mes tops.
Oui,
non,
mais top 10 tranche de vie, ça tu peux le faire.
Je peux, top 1, Eyeshield 21.
Top 1 Eyeshield 21.
C'est, en vrai, c'est le top 1 de beaucoup de gens que je connais, donc je vais pas me vexer ni pleurer. Enfin, pas tout de suite, mais je peux comprendre.
Ouais, mais donc du coup, s'il rentre en pleurant chez lui, c'est que tu l'as retrouvé à la sortie, ok ?
Ça, les auditeurs sont pas censés le savoir.
Je te retrouve à la sortie.
Non, mais c'est tellement bien.
Manquez pas donc au printemps Eyeshield 21. Place maintenant à une série de mangas d'action. Ouais, et on en avait plein cette année des mangas d'action. Et on commence avec L'apprenti de Lord Magir, par les auteurs de Darwin's Game. Ouais. Une histoire de fantasy cette fois. On va suivre un jeune mercenaire qui, bien malgré lui, va devenir l'apprenti d'une puissante magicienne. J'ai bien aimé.
C'était très sympa. Mais alors, par contre, très sympa, non. Le tome 1 était très classique. Honnêtement, j'ai adoré Darwin's Game. Donc, moi, je reste sur le fait que les auteurs nous réservent des choses.
Oui, puis mais c'est pas grave. Quand, non, mais quand tu lis le tome 1, il y a plein de choses classiques qui sont très bien.
Non, mais il est bien. Et il n'y a pas des trucs mauvais. Mais il est bien, mais il n'est pas transcendant. Je ne me suis pas dit « Waouh, c'est le titre de l'année ». Par contre, il paraît qu'à partir du tome 3, et là, je ne dis pas ça pour que vous achetiez, j'en ai rien à faire, vous faites ce que vous voulez, mais on m'a dit « Il y a un truc au tome 3 où là, tu sens le flip-flop ». Enfin, le ça, flip-flop, c'est les auteurs.
Et, ça ressemble,
il est bien placé.
Ça ressemble typiquement à ce que quelqu'un dirait qu'il voudrait qu'il achète jusqu'au 3.
Mais en tout cas, non. Alors, le dessin est ce qu'il est, parce que Darwin's Game, je pense qu'il ne brille pas non plus par un graphisme de fou.
Non, mais alors moi, le dessin, c'est ce qui m'a le plus surpris, dans le sens où, je ne sais pas, sur Darwin's Game, alors c'est effectivement, oui, les derniers tomes que j'ai lus, c'était plutôt les derniers tomes.
C'était très rapide.
Et c'était très fouillé, c'était, oui. Là, c'est très épuré, là, par là, rapport donc, à Darwin's
ouais,
Game.
C'est de la fantasy sympatoche, mais moi, j'ai confiance
en ces
auteurs.
Il y a même des endroits où il n'y a pas du tout de décor, par exemple. Oui. C'est assez surprenant, comme si ils avaient envie d'aller plus vite.
C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est un peu dommage dans la fantasy parce qu'il faut qu'on mette des châteaux, des dragons et tout. On le voit un petit peu parce qu'il y a des grands plans de ville, mais c'est vrai que c'est très épuré. Mais il y a une petite vibe où je dis, allez, vas-y, on y va.
Et ça va sortir donc chez Mana Books le 2 avril prochain. Autre manga d'action, ça s'appelle Blades of the Guardians. C'est une série chinoise qui compte à date 12 volumes. C'est toujours en cours en Chine. Ça a été lancé là-bas en 2018 et ça a déjà été adapté en animé. Animé qui devrait arriver en France sur ADN, si je ne dis pas de bêtises. Et cette œuvre bien sombre nous plonge au cœur d'une Chine ancienne ravagée par des conflits. Pas de place pour les bonnes intentions ici. D'autant que le héros, c'est un mercenaire sans foi ni loi. Un bon mercenaire.
Oui, qui applique vraiment pas la caricature, mais vraiment, ouais, on va dire le stéréotype du je suis un mercenaire, bâtard, j'utilise les gens, ce sont des pions, et en plus, j'ai la claque.
Bah, on me paye, hein, c'est son boulot.
Oui, oui, c'est ça. Mais par contre, c'est très bien dessiné. Pour le coup, je trouve qu'au niveau des découpages de combat, on est sur un truc où vraiment ça s'apprécie, ça se savoure. Et après, j'ai lu que le tome 1, donc un régal pour les yeux pour le moment. Mais allez, un peu de scénar, s'il vous plaît, les enfants.
Et je vais tenter de prononcer le nom de l'auteur, mais je n'ai aucune idée de comment on prononce les lettres en chinois. Donc, c'est
X,
Shu Xianxi.
Alors, il y a un X.
X-U, plus loin, X-I-A-N-Z-H-E.
Eh ben, mettez-le dans Google
Translate. Ah ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire.
Blades of the Guardian, et ça sort le 27 février aux éditions Kana. Autre manga d'action, cette fois, avec un peu d'humour surtout. Même l'inverse, en fait. C'est surtout l'humour avec un petit peu d'action. Ça s'appelle The Hitman Fave. L'histoire de Endo Waru, un tueur à gages légendaire, mais... Ce tueur à gage légendaire,
encore.
Il décide d'ouvrir une supérette. Non, ça c'est pas le mot. Pardon. Ce tueur à gage légendaire décide de quitter le monde du crime pour devenir fan de Kaolin, une idole. Une idole. Il a décidé de sa vie d'être fan d'une idole. Il était.
Alors il l'était déjà avant.
Il
la suit depuis des années.
Sa vie maintenant.
Il veut en faire son métier.
Oui, voilà, son métier, c'est d'être fan d'idole, quoi. Mais est-ce qu'il va réussir à mener une vie de fan d'idole comme les autres ? Bien sûr que non.
Bah, très absurde, c'est toujours ces concepts un peu improbables au Japon, mais qu'ils trouvent réussissent toujours à fonctionner par la manière dont ils prennent vraiment le premier degré d'un genre et ils vont le mixer avec un autre. Donc là, t'as cette ambiance Yakuza qui est très prenante. Parce qu'en plus, pour le moment, il a même pas de problème avec son organisation de Yakuza. Hein. Son patron le libère en lui disant « Ouais, ok, t'as bien bossé, je t'ai jamais senti aussi humain qu'à l'heure actuelle, donc vas-y, fonce. » Et donc voilà, t'as ce truc très premier degré Yakuza et qui va t'amener dans des situations très absurdes de la vie de l'otaku en général, je pense, parce que les plus grosses faiblesses qu'a le tueur, c'est bah, les liens sociaux au final. Est-ce qu'il va oser se prendre en photo avec son idole préférée? Parce qu'ils se connaissent, ils se sont déjà parlé quand même quelques fois. Et donc voilà, t'as toujours ce décalage très absurde. Bon, pour moi, ça reste quand même très japonais comme délire, parce que j'ai
les
beau
idoles.
Connaître et tout, mais tu sais, je comprends toujours pas le principe des gens qui sont des mecs, hein, la plupart du temps, qui sont fans d'idoles à ce point-là et qui sont complètement conscients de l'industrie que ça engendre et ils y participent avec plaisir parce que plus ils donneront d'argent à leurs idoles et plus elles vont être connues. Bon, il y a un truc qui
c'est
pour moi ne fonctionne pas, mais en vrai c'est Ranma. C'est Ranma parce que voilà, ça coupe vraiment deux mondes qui sont assez différents.
Alors pour les plus jeunes et pour les plus anciens, Ranma,
c'est marrant.
Ouais. Non.
Le taquet, pardon. Bah moi aussi, j'ai trouvé que c'était bon délire, franchement, le Hitman Fave. Et oui, c'est marrant d'avoir... On savait, il arrive en bas d'une longue lignée déjà de tueurs à gages reconvertis.
C'est vrai que la NPE japonaise, c'est ainsi la vache. La NPE, pour ceux qui ne savent pas, c'est France Emploi.
Pôle Emploi.
France Travail.
France Travail. Il avait fait un mix.
Mais donc, tout ça pour dire, moi, au contraire, j'aime bien ce que Kanya a essayé
otaku, d'expliquer.
C'est pas la culture otaku. Ça a un nom. Ça s'appelle le oshikatsu. Donc, c'est vraiment la culture oshi. Et donc, oshi, ça veut dire le fait de pousser ses idoles, pousser les célébrités qu'on veut encourager à tout prix. Et donc, t'as des idoles, mais maintenant, en fait, c'est devenu très très courant pour les gens plus jeunes que nous, puisque tout ce qui concerne les boys bands coréens, tout ça, ou même les girls band, ils ont repris en fait beaucoup de la culture oshikatsu pour
après c'est pas parce que le mot existe
connecter.
Que c'est une bonne idée, hein.
Ah oui, non, mais ça je sais, mais moi j'aime bien, je trouve que sociologiquement c'est intéressant à étudier.
Et rien à voir, mais le week-end dernier c'était la guerre pour avoir les places pour les BTS. Eh ben, sachez que j'en ai eu 8.
Non,
t'as
réussi à les avoir.
Très content, oui.
Ah non, mais parce qu'il était vraiment...
c'était
un peu en panique de ne pas réussir à avoir ses places.
Horrible.
Et alors, écoute, je vais dire ça devant tout le monde, au comité d'entreprise de mon entreprise.
Non, il y en avait et tu ne m'as pas dit.
J'en avais, mais je ne savais pas que tu en cherchais.
Putain, mais t'es vraiment un enfoiré.
Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu en cherchais?
Mais si, je l'ai dit, non.
Tu ne l'as pas dit.
Amis fans de BTS, vous savez que dans le podcast, vous avez des gens qui peuvent vous trouver des places assez facilement.
Non, mais c'est fini.
Par contre, vous allez être accompagné par Julie à chaque fois qu'il viendra vous étudier sociologiquement.
Alors, le shikatsu. The Hitman, Fav.
Et moi, pas loin, qui sera là à vous insulter.
Il y aura surtout ma fille qui dira « Vas-y, moi aussi, je vais y aller. »
C'est aux éditions Kurokawa et ça sort le 12 mars prochain. Maintenant, parlons de The Regalia of the Underdog. L'histoire de Tarte. C'est son nom. Tarte. Tarte est Tarté. Riche. Tarte, Tarte, Tarte. Non, j'aime bien l'appeler Tarte. Ouais. Tarte est riche. Tarte est puissant. Tarte est talentueux. Il est sûr de réussir le test du roi, celui-là même qui décide de qui sera l'élu. Mais voilà que le fils d'un forgeron vient mettre à mal tous ses plans. Cagnard.
Alors, gros, gros capital sympathie pour cette série. Elle m'a chopé un petit peu par hasard. On est vraiment sur le carcan très habituel du récit fantastique. Sauf que là, le héros est un salopard. Mais c'est même pas genre caché ou quoi que ce soit. C'est vraiment le méchant d'un autre shonen, typiquement. Sauf que bah, juste la caméra, elle est braquée sur lui pendant toute la série. Et du coup, ça donne une originalité assez marrante, je trouve, parce que bah ouais, tu suis un salopard dans un récit initiatique. Et du coup, je sais pas, peut-être que ça a à voir avec le fait que je l'ai lu à 6h du matin. Mais il m'a vraiment donné du punch.
T'as vu fils de forgeron, tu fais ah ouais, comme dans Mano.
Mais oui, évidemment. J'ai pensé à Mano, mais du coup, ouais, il y a ce truc très frais, très Neketsu à 200% hein, et compagnie. Et parce que peut-être qu'au final, démarrer avec un héros qui est fondamentalement mauvais, parce qu'il a toujours été pourri gâté par son père, il a aucun respect pour les autres, il jette l'argent vraiment en traitant les gens de manants, tu vois, il a aucun respect pour les humains. Et ben peut-être qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant, là maintenant, à l'heure actuelle, de démarrer un Neketsu fantastique, on va dire, avec ce postulat-là. Où là, le voyage du héros, bah, mine de rien, il va quand même être intéressant parce qu'au-delà des pouvoirs, et il y a une partie pouvoir aussi évidemment, mais ça va surtout être la manière dont il va falloir le faire évoluer personnellement, quoi.
Ouais,
et du coup, humainement, ouais. Et je l'ai vraiment adoré. J'ai passé un super moment de lecture au point que, en me levant à 6h du matin, c'était beaucoup plus tôt que l'heure à laquelle je devais me réveiller, je l'ai lu et je suis allé au taf et j'avais une patate, mais de malade. Donc les enfants, arrêtez la drogue, lisez ce manga tout simplement.
The Regalia of the Underdog, ça sort cette semaine aux éditions Glénat. Maintenant, place à un titre qui s'appelle Mon adolescence explosive. L'histoire d'un père et sa fille qui vivent sur l'île d'Okinawa ensemble, mais l'adolescence de la jeune fille prend une tournure explosive. Haruko détruit tout autour d'elle, mais pas de manière classique, genre « Ah, oh, j'ai cassé un truc ». Non, non, elle détruit tout, vraiment, de manière explosive. C'est hors norme, avec un papa militaire surrationnel. Ça va vite être compliqué d'accepter cette situation pas du tout rationnelle.
Ouais, bah, j'ai eu un très bon feeling sur ce titre que je trouve qui est un peu à part au final. Alors là, c'est très bien dessiné. Je trouve que les persos, ils sont hyper bien incarnés. Enfin, il y a un truc, je les sens humains, ces personnages. Et ils sont bien ancrés dans le récit. Je comprends leurs réactions. Et surtout, pour le moment, en fait, j'ai aucune idée de ce qui va se passer pour la suite. Et par exemple, au début, tu vois, au début de la série, on fait passer toutes les colères de la jeune fille parce qu'elle est en train d'avoir ses premières règles. Et donc, il y a vraiment cette notion de bon bah voilà, changement d'humeur et compagnie. Et il y a un truc que j'ai adoré parce que au-delà de ces changements d'humeur, bah, elle va avoir des pouvoirs psychiques à proprement parler qui vont se déclencher. Et en fait, pendant tout le tome 1, il y a un truc qui reste toujours, c'est que elle est toujours aussi vénère contre son père. Et je trouve que ça marche trop bien, tu vois. C'est pas genre ah ça y est, le pouvoir est sorti, donc maintenant ça va mieux et on va s'entraider, on va voir comment je vais faire pour t'aider et tout. Là, il y a vraiment un truc où non, l'adolescence continue. Oui, elle a des pouvoirs, mais l'adolescence continue, donc elle continue à pourrir son père de A à Z. Je trouve que ça, c'est une partie qui est déjà très intéressante. Et la deuxième partie, c'est plutôt celle où justement, je me demande fort ce qui va arriver parce que tu pars d'une adolescente qui a des pouvoirs et qui s'acoquine, enfin qui s'acoquine pas vraiment, mais qui est accompagnée de son père, qui est militaire, genre force spéciale et compagnie. Normalement, c'est pas pour raconter du trans-levis, tu vois. Normalement, il devrait se passer quelque chose avec un niveau scénaristique, avec des ambitions scénaristiques un peu élevées, je pense.
Mon adolescence explosive aux éditions Doki Doki, ça sort également cette semaine. Vous voulez dire un mot dessus, Joe et Julie ?
Bah, moi, j'ai trouvé que, comme c'est difficile de passer après Cagnard. Écoute, il y a du potentiel. Et effectivement, les personnages ont une relation que moi, je qualifierais de mignonne. Alors, le manga n'est pas mignon. Hein, c'est juste que moi, j'ai trouvé les personnages attachants. Et effectivement, ils ont des relations comme ça, qui sont houleuses, qui sont, somme toute, assez réalistes, quoi.
Moi, je serais pas aussi dithyrambique, mais clairement, il y a une grosse vibe Stranger Things. Cette base, je pense, elle existe dans la tête de l'auteur, parce que j'ai l'impression que le tome 1, c'est un peu ça. Moi, je me suis surtout focalisé sur la relation père-fille pour voir ce que va devenir ma fille aussi, et ce qui va se passer
quand elle aura des pouvoirs psychiques.
Dans le doute, je préfère le lire.
Je prends tous les conseils que le manga donne, parce qu'en vrai, il en donne. Hein. Il fait un truc sur c'est ça qui se passe alors.
Oui,
la
c'est
puberté,
vrai que son père fait des recherches.
Ah ouais, il y a ça. Et puis non, mais et parfois il y a aussi il dit des proverbes. C'est des proverbes trop bien. C'est genre, c'était quoi? Faut pas deviner ce qui va se passer. Non, je sais plus. Genre, faut pas avoir peur de ce qui va se passer, mais faut arriver à devenir comment ça va devenir ou je sais plus quoi. Et j'ai fait putain, mais oui, c'est bien ça. C'est bien.
D'accord. C'est mal raconté, mais je suis sûr que c'est super bien.
Phrase inspirante de Facebook.
Je vous le redirai. Je vous le redirai.
Pour ceux qui savent pas, Facebook c'était TikTok avant.
Un mot sur No Name aussi. Ça sort aux éditions. C'est sorti aux éditions Kurokawa. C'est un manga qui était prépublié au Japon entre janvier 2024 et le début de cette année dans le Jump Plus. C'est une œuvre qui réunit donc Rafał Jaki, qui est un scénariste polonais qui a bossé sur Cyberpunk Edge Runners et sur The Witchers, et quelqu'un du nom de Machine Gamu. Et au programme donc action, super pouvoir dans un monde où les noms octroient des pouvoirs à la naissance.
Super concept, franchement, super concept. J'ai adoré le manga. C'est la même, je sais pas trop où il va, parce qu'en fait très rapidement t'arrives dans un tournoi et t'es un peu bloqué dans. Non mais en fait j'aimerais bien en apprendre plus sur le monde encore, parce que les quelques personnages et les quelques règles qu'ils développent dans ce tome 1, bah c'est super. Et du coup après on part très vite sur de l'action tournoi et c'est très excitant, je trouve, encore une fois. Alors là, ça y est, le Japon s'est ouvert. Auteur français, auteur polonais, ça y est, c'est fini.
C'est le bordel.
C'est fini l'ouverture.
C'est la mondialisation.
Voilà, et on va terminer là-dessus. Non, on en fait un dernier pour la route. Toujours un petit dernier pour la route.
Sœur.
La petite sœur. La petite sœur, j'en ai combien?
Non, je retire ça.
Oh là là, mais c'est horrible.
C'est trop bizarre, surtout après avoir parlé d'adolescence explosive.
Funny sous le baby.
Il nous en reste 5. Juste un mot sur la 13e piste, le nouveau Kaisambe. J'achète.
C'est vraiment ton truc.
Auteur à qui l'on doit donc Erased ou Echoes. Et cette fois, on plonge dans la vie d'une famille qui a l'air bien heureuse sur la couve du tome 1. Ouais, super la vie, mais pas du tout. Que nenni. Le papa enseignant en école primaire découvre dans ses affaires des cartes postales qui prédisent des terribles tragédies avec une écriture toute enfantine. Et son rôle semble être de stopper ces tragédies. Mais pourquoi lui? Pourquoi ces cartes? Pourquoi ici? Et qui est l'auteur de ces prophéties? 13e piste, Kaisambe, j'achète.
Pourquoi t'es aussi menaçant quand tu parles de lui? C'est juste demain à la une avec des cartes postales. Demain à la une, pour ceux qui ne savent pas,
c'est demain à la une X 20th Century Boys, je pense.
Demain à la une, pour ceux qui ne savent pas, oui.
J'ai pas trouvé d'équivalent de série temporelle là à l'heure actuelle.
Et ben, c'est comme 7 jours pour agir.
Tu t'es décalé de quelques années là, t'as fait un flash forward de 6 mois, je crois.
Donc c'était une série télé en fait où tous les jours, le mec avait un chat qui lui déposait le journal du lendemain.
Peu importe où il était.
Ouais, et donc en lisant le journal du lendemain, il voyait des catastrophes, parce que tous les jours il se passait des catastrophes.
Des gens qui vont mourir.
Après, c'était des catastrophes à échelle, tu vois.
Voilà. Gary. Hey, Gary. Une petite ville, quoi. Et donc, Gary, exactement.
Mais personne parlait comme ça dans la série.
Si, son pote.
Gary.
Mais dans tu, la viens VF, oui. Tu viens de faire Snatch.
Non, je te jure qu'il parlait comme ça.
Alors, on va vous mettre un Snatch.
Kaisambe, la 13e piste. Ne ratez pas cette sortie au printemps. Sortie également de Strange Pictures. Thriller aussi, hein, avec c'est l'autre manga de Uketsu. Vous vous souvenez, on a parlé de Uketsu dans une émission l'automne dernier. Exactement, c'est ce que veut dire Uketsu. Ça s'appelle donc Strange Picture, 9 dessins, autant de mystères à résoudre cette fois. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Tu l'as pas lu toi encore?
Ah non, pas encore, mais j'ai hâte.
Et on a aussi Yakuza Zen. Yakuza Zen, c'est aux éditions Vega, c'est le sous-fifre d'un gang de Yakuza qui survit en compagnie de la jeune fille du chef de clan au moment d'une attaque. Alors, la police décide de les cacher dans un temple historique et ils vont devoir se plier à la discipline de la voie du Zen, faire des entraînements surhumains du zen, à se demander s'il valait mieux pas continuer à être yakuza, quoi.
Bah écoute, moi j'ai beaucoup ri. Alors c'est pas comment dire, c'est une petite fille. Donc en fait, en gros, pour éviter qu'il se fasse tuer par le tueur à gages qui vient de décimer ce clan yakuza, on va les mettre à l'abri effectivement. Et en fait, certains des moines, bah tu dis qu'ils ont dû être yakuza dans une autre vie parce que ça rigole pas du tout. Et effectivement, il y a toute une période de probation pour ce jeune homme qui, du coup, bah, est vraiment un gamin de son temps, quoi, et qui est insouciant, qui s'en fiche vraiment royalement des règles à suivre, etc. Et là, bah, il va être mené à la dure, à la baguette, et c'est très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri. Évidemment, bon, on apprend quelque chose sur le bouddhisme, ouais, mais rapide. Hein.
Un peu, là.
C'est rapide. Hein. Du coup, ça devrait te plaire parce que toi, d'habitude, t'aimes pas apprendre les trucs. Et mais moi, ça m'a fait aussi plaisir de retrouver en fait des bonzes dans du manga parce que il y a eu un moment où c'était un peu à la mode d'avoir des personnages religieux et notamment des moines bouddhistes. Et bah, et puis là, bah, ils sont de retour.
Ouais, autant j'avais la mode baggy, mais autant la mode des bonzes. Jamais eu.
Dans tout ce qui est plutôt romance, BL, t'as des personnages souvent qui sont.
Très bien.
Sont,
moi je dirais que c'était plus la mode des loubards. Tu sais, on a eu les loubards dans les bains, les loubards. Bah là, c'est les loubards dans les temples maintenant. Et du coup, en fait, dans les temples, c'est aussi des loubards. Du coup, là, on se rapproche quasiment d'un crow, tu vois, où ça va être.
Ils peuvent pas se bagarrer ouvertement.
Ils peuvent pas se bagarrer, c'est vrai qu'ils peuvent pas se bagarrer.
Ils se bagarrent avec eux-mêmes. Et en plus, ils ont tout un groupe de nouveaux qui arrivent en même
oui,
temps.
C'est ça.
Et c'est très,
il y a
drôle.
Un parallèle en plus entre la dureté du monde des yakuza et qui en final représente pas mal la dureté du monde des moines aussi, où en fait il prend cher pendant tout le manga, tout le temps.
Yakuza Zen, ça sort à la fin du mois, le 27 février aux éditions Vega. Un mot sur Share House Nile. Une tranche de vie d'une coloc pas comme les autres, puisque dedans, rigole pas, on trouve des personnages célèbres qui ont mystérieusement ressuscité. Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc, Pablo Picasso et le nouvel arrivant, le révolutionnaire Che Guevara. Et donc, ils vont être en colloque tous ensemble. Mais attends, un révolutionnaire qui vit avec Marie-Antoinette, tuée pendant la Révolution, ça va mal finir. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je suis pas sûr. Ça sort aux éditions Mangetsu de Cheryl Snyle. Moi, ça m'a tué sur le pitch. Et effectivement, je ne lirai pas à 15 tomes, mais ça m'a fait rire de lire ce tome 1, Cheryl's Nile. Et un dernier pour finir, Les Fiancés de Taisho, qui sort aux éditions Veiga. C'est un seinen manga qui va plonger le lecteur dans la vie d'un couple très surprenant pour le Japon des années 20. Différence d'âge, différents statuts sociaux, très différents même le statut social. Et on peut dire qu'ils vont devoir se défaire de bien des conventions sociales, Julie.
Oui, et puis c'est, en fait, j'ai été plutôt agréablement surprise. Si on peut caricaturer, on dirait que c'est un peu Cendrillon dans la période Taisho, quoi. Mais c'est quand même touchant, et les dessins sont quand même très bien réalisés, et on a envie de voir ce couple aller à son rythme. Évidemment, c'est aussi très moderne, au sens où lui est plus jeune, mais il a une seule hâte, c'est que de voir sa femme tomber amoureuse de lui, puisque jusqu'à présent c'était sa domestique et qu'elle s'est toujours occupée de lui quand ils étaient plus jeunes, et maintenant il aimerait lui rendre l'appareil, quoi.
Ça sort le 6 mars prochain aux éditions Vega. J'ai pas dit quand sortait Cheryl's Nile. Ça sort aux éditions Mangetsu. Ça fera 4 tomes au total. Et ça sort cette semaine, le tome 1 de ce manga totalement au pitch totalement improbable. Voilà, on a fait une trentaine de titres. Et c'est beaucoup quand même, hein?
Ouais, c'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup. En fait, j'arrive pas à réaliser qu'on en a fait 40 l'année dernière, tu vois.
C'est parce qu'il y en a où on a moins parlé, tu vois.
Ouais.
Oui. Peut-être que ce sera, je sais pas,
on
a fait plus attention,
on vieillit. Là, après 30 tomes, moi je me sens essoufflé perso.
Ah mince.
Mais ça, c'est parce que
l'année dernière j'en faisais 40 facile encore, hein. Mais là
t'as parlé trop de séries télé, t'as mis des mots en verlan et tout en plus.
T'as voulu faire ton malin là.
Je me suis fatigué moi-même,
c'est trop compliqué. Ouais.
Tirer d'une histoire vraie.
Bon, vous avez encore,
dit c'est trop Rama, j'ai dit c'est Rama. Commence pas à rajouter des mots.
En tout cas, là, vous avez une liste de lecture, mais absolument folle pour commencer cette année. On va revenir sur plusieurs de ces titres dans d'autres émissions à venir. La semaine prochaine, ouais Joe ?
Ça représente seulement 2500 euros.
Parce que pas mal.
Non, mais je t'avais dit 35 000 euros pour tous les mangas achetés l'année dernière. Et là, juste pour 2026, pour l'instant, on est jusqu'à 2000, ça va. On
a pas, ouais, on mais a ça, c'est juste une nouveauté.
Je pense qu'il y en a pour moins de 200 euros. Hein.
Oui, je sais. Mais il y aura peut-être des collecteurs, on y croit.
Bah, Itchy the Witch, non, il n'y a pas de, y a rien qui sort.
Sûrement.
Il y a des collecteurs hein, dans ce qu'on. Moi, je ne suis pas, du coup, mais je sais qu'il y en a.
Merci ouais, pour cette information.
Je vais pas au bout.
Ouais, je suis d'accord avec Joe.
On
merci
annule
beaucoup, Cagnard.
On annule.
Rappelez mon mail. Ah non, il est parti.
Trop tard, il a lu.
Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de manga d'occasion. Parce qu'on aime bien les mangas d'occasion.
Et l'occasion fait le larron.
Exactement. J'ai
on
plein à dire.
Annule et remplace,
vite. Ctrl Z.
On a nos deux micros sur les 5 dernières minutes, si ça te va.
C'est trop bien.
À la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut.
Merci. Salut.